Vivre la joie chrétienne à l'école de Thérèse. 11e conférence. Entrer dans la joie de Dieu.
J'ai donc décidé de vous parler ce matin du mystère de la Trinité, car la prière chrétienne n'est pas une pure contemplation de Dieu, c'est vraiment la plongée dans le mystère trinitaire. Vous savez que les chrétiens ont inventé, il y a belle lurette, on ne sait pas pourquoi, les chrétiens ont inventé cet audiovisuel du signe de la croix qui résume les deux grands mystères de notre foi chrétienne. Dans le visuel de cet audiovisuel, nous avons le mystère de la rédemption, le signe de la croix, cette croix dans laquelle s'est manifesté éloquemment l'amour de Dieu pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant des siècles, quand les chrétiens disaient « bonne nouvelle », « évangile », ils parlaient essentiellement de cette révélation de l'amour trinitaire. Les chrétiens ont eu conscience tout de suite que l'originalité de leur prédication n'était pas l'amour de Dieu pour les hommes. Cela, les juifs le disaient déjà. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. L'originalité de la prédication chrétienne du premier évangile, c'était le mystère trinitaire. Et c'est pour cela que les chrétiens ont eu cette idée géniale. On ne saura que dans le ciel qui l'a inventé, à quel moment ça a été inventé. Il semble que ce soit au début du second siècle, ce signe de la croix. Et j'ai toujours été frappé par le fait que c'est Saint Jean, le seul témoin oculaire de la Passion, le seul apôtre témoin oculaire de la Passion, qui a eu l'idée de résumer tout le message chrétien à la fin de sa vie, dans la première épître qu'il a écrite, « Dieu est amour »,« Theos esti agape ». Tellement il avait compris que c'était sur la croix que Dieu révélait le plus son amour exceptionnel, son amour inouï. J'ai eu la joie, il y a quelques mois, d'aller à l'abbaye des Dombes, l'abbaye des Trappistes qui se trouve pas loin d'Ars, et j'ai eu dans les mains, pendant 8 jours, les bréviaires du curé d'Ars, et j'ai vérifié qu'au début de chacune des parties de son bréviaire, il avait collé l'image de la Sainte Trinité, car le curé d'Ars lui aussi avait besoin d'images pour prier, et il trafiquait son bréviaire en y ajoutant des images, les images de l'époque. Et le curé d'Ars prêchait énormément la Trinité. Ne disons pas, c'est un mystère qui nous dépasse, que les enfants ne peuvent pas comprendre. Je ne pense pas que le curé d'Ars était un intellectuel au mauvais sens du mot. Hein? Mais le curé d'Ars ne pouvait pas ne pas parler énormément de ce mystère trinitaire. Et nous allons voir à quel point il peut aider notre prière, puisque la prière, ça consiste à vivre comme un fils à l'intérieur de la Sainte Trinité. Alors, comme j'aime bien parler de la joie de Dieu, je vais présenter le mystère de la Trinité en parlant successivement de la joie du Père, de la joie du Fils et de la joie de l'Esprit-Saint. Car Dieu est joie, hein? Dieu est plénitude de joie, tout en ayant une possibilité énorme d'avoir compassion et de souffrir en quelque sorte avec nous. Mais il est pour toujours océan de joie. L'absolu est joyeux. L'absolu n'est pas atteint de neurasthénie. Je pense que les chrétiens ne pensent pas suffisamment à cette plénitude de joie qui les habite. Nous sommes habités par un océan de joie. Tenez, je pense à la réflexion d'une carmélite de Normandie, mais ça ne se passe pas à Lisieux, qui disait un jour, quand je suis triste, je m'assieds dans un coin de mon monastère et je pense que Dieu est joie. Et cela me permet de continuer ma route malgré mes difficultés. Bon, la joie du Père, on peut la caractériser par 3 verbes. La joie de donner, la joie de s'extasier, la joie d'être aimé. La joie de donner. Comment se fait-il qu'il y a en chacun d'entre nous plus de joie à donner qu'à recevoir? Un mot de Jésus qui n'est pas rapporté par les évangiles mais par les actes des apôtres, cité par saint Paul, Comment se fait-il que même les non-chrétiens éprouvent au fur et à mesure qu'ils grandissent, spécialement au moment de leur adolescence, qu'il y a vraiment une joie à faire plaisir aux autres, qu'il y a une joie à partager son pain plutôt que de le manger tout seul, qu'il y a une joie à donner ses jouets pour voir qu'un autre est heureux de jouer avec? Comment se fait-il qu'il y a en nous ce besoin de donner? Parce que nous sommes créés à l'image d'un Dieu qui est comme cela. Dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Hilarem datorem diligit Deus. Mot à mot, Dieu aime celui qui donne avec hilarité, dans une explosion de rire. Eh bien, parce que Dieu aime ce qui lui ressemble. Dieu ne cesse de donner tout ce qu'il a à un autre que lui. Il ne peut pas faire autrement. Ne le félicitez pas d'ailleurs. Il vous dirait, je ne peux pas faire autrement, mon petit. Je ne me force pas. Dieu ne se force pas à aimer. Nous savons à quel point l'amour est un devoir. Bien souvent, heureusement, c'est un commandement. Sinon, il y a bien des gens que nous n'aimerions pas. Parce que notre cœur n'est pas naturellement divin, n'est pas naturellement fournaise d'amour. Nous ne sommes pas naturellement Mère Teresa. Nous ne sommes pas le Fils unique, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais Dieu, lui, c'est sa nature. C'est un besoin. Il ne peut pas ne pas engendrer un autre lui-même. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il le donne à un autre. Seulement, lorsque nous donnons notre chemise, nous la perdons, tandis que Dieu peut tout donner sans rien perdre. Et ça, c'est le mystère. Bien sûr que nous parlons d'un mystère qui nous dépasse totalement. C'était l'hymne attribué à Grégoire de Nazianze qu'on trouvait dans le bréviaire d'aujourd'hui. Ô toi, l'au-delà de tout, toi que personne ne peut nommer. Aucun saint n'arrivera à épuiser le mystère de la Trinité. Mais on peut balbutier, à la suite de la tradition, quelques mots là-dessus. La joie de donner. Lorsque nous contemplons le Père, nous pouvons le voir en train de donner. Prenez un poster d'un papa qui joue avec son enfant, qui le jette en l'air en étant sûr qu'il va le rattraper dans ses bras. Vous avez une petite image de l'amour de Dieu. On peut aimer le représenter assez vieux avec une grande barbe, mais on peut aussi le représenter comme un jeune papa qui joue avec son gosse et qui est heureux de donner tout ce qu'il a à son gosse, qui travaille pour son gosse, qui se donne, qui aime. Deuxième aspect, la joie du Père, c'est de s'extasier devant un autre. Dieu ne peut pas être atteint de nombrilisme, de narcissisme. Dieu ne dit pas « Mon Dieu, que je suis beau !»« Qu'est-ce que je suis beau ? » !»« Qu'est-ce que je suis vraiment le plus beau, le seul même ?» Le seul. Non, Dieu ne sait pas s'admirer lui-même. Ça lui est métaphysiquement impossible. Il ne peut qu'admirer quelqu'un d'autre. Car tout ce qu'il a de bien, il le contemple dans son verbe « splendeur de la gloire du Père ». Donc il est en perpétuelle extase au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qu'il sort sans cesse de lui-même pour admirer un autre, un reflet de sa gloire. Comment se fait-il, mes chers amis, que vous n'aimez pas votre solitude? Parce que vous n'êtes pas fait pour être seul. Et comment se fait-il que vous n'êtes pas fait pour être seul? Parce que vous êtes créé à l'image d'un Dieu qui n'est pas solitaire. Aussi simple que cela. L'homme n'est pas fait pour être seul. Le moine, c'est un solitaire, puisque monos veut dire en grec seul, monocle, monoplan. Eh bien, le moine, il ne peut vivre son célibat joyeusement que s'il est en communion perpétuelle avec un autre, avec Dieu. Si l'on vient en silence, en retraite, ce n'est pas pour faire du nombrilisme, pour s'examiner soi-même et faire uniquement le bilan de sa vie, c'est pour vivre en intense communion avec l'autre. N'ayez pas peur au réfectoire, entre deux plats, de montrer que vous priez. On est ici en école de prière, personne ne se moquera de vous. Ne fermez pas les yeux au point d'oublier le plat à votre voisin, mais n'ayez pas peur de montrer que vous êtes ici pour être en dialogue avec quelqu'un. C'est tout le temps qu'on essaye d'être en dialogue, c'est sympathique, quoi. C'est un dialogue d'amour, il n'y a pas qu'à la chapelle. Et chacun sait que c'est souvent en dehors de la chapelle que l'on a les plus belles oraisons. compris le plus facilement, mais parce qu'on a prié, parce qu'on s'est obligé à prier un bon moment à la chapelle ou dans sa chambre. Bon, c'est tout le temps que... comme disait un enfant à l'école primaire, en réponse à la question que posait l'institutrice, qu'est-ce que c'est les enfants que de s'aimer les uns les autres ? Omzel, moi je sais ce que c'est. C'est quand on est heureux de être à deux. C'est aussi quand on est heureux de être à plusieurs, parce que c'est triste, mamzelle, de être à tout seul. À partir de cela, vous pouvez faire toute une homélie sur la Sainte Trinité. Dieu n'est pas tout seul. Si j'étais juif et musulman, et Dieu sait si je ne me moque pas d'eux, je penserais que Dieu est célibataire. Les juifs et les musulmans pensent que Dieu est seul dans son éternité, et que sa joie, c'est en quelque sorte de se dire éternellement « Mon Dieu, que je suis beau ». Je ne me moque absolument pas. Si j'étais né dans une ère culturelle semblable, c'est ce que je penserais moi-même. Mais justement, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu n'est pas célibataire. Que Dieu est extase d'amour. Que Dieu ne se regarde pas lui-même. Que Dieu ne peut que s'extasier devant un autre. Et puis, la joie du Père, c'est d'être aimé. Le Père ne connaît pas la souffrance de certains grands-parents qui ne reçoivent jamais de nouvelles de leurs petits-enfants alors qu'ils ont tant fait pour eux. Dieu n'est sans cesse payé de retour. La joie du Père, c'est aussi d'être aimé. N'ayons pas peur de le dire. Et c'est normal que nous ayons plaisir à être aimés parce que nous sommes créés à l'image d'un Dieu dont c'est la joie. Nous ne sommes pas faits pour aimer comme ça, aimer, sans être payés de retour. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Si vous aimez quelqu'un sans désirer être payé de retour, c'est que vous ne l'aimez pas beaucoup. Vous l'aimez d'un amour paternaliste. Je te donne ce que je peux, maintenant je n'attends rien de toi. T'es un pauvre petit bonhomme qui ne peut rien m'apporter. J'ai toujours enseigné cela. Un professeur ne doit pas attendre, réclamer l'affection de ses élèves. Des parents ne doivent pas réclamer la reconnaissance de leurs enfants, mais il est normal qu'ils en jouissent. Et il est normal que s'ils ne l'ont pas, ils en souffrent. C'est le signe qu'ils aiment. C'est le signe qu'ils ne balancent pas leur amour comme ça du haut de leur grandeur. L'amour est une réciprocité. Ce désir d'être aimé est tout à fait normal. Je désire qu'on s'intéresse à moi, car tout être humain, même s'il n'est qu'une créature, tout être humain est un centre de perspective unique. C'est justement le fondement des droits de tout homme au respect et à la liberté. Vous êtes un centre de perspective unique. Vous n'êtes pas le centre du monde, mais vous n'êtes pas un animal. Un animal n'est qu'un moyen. Un chêne, c'est magnifique, ça coûte plus cher que vous sur le marché peut-être. Mais, a fortiori, un taureau, ou je ne sais quel animal, ou un cheval de course. Mais vous, vous êtes unique au monde, votre cœur est unique au monde, et donc il réclame d'être reconnu comme quelqu'un d'unique.